There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Mmh. Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
C'est France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça,
ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Christelle Robien.
Bonjour et bienvenue sur Popourri Show, CUTFM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, accompagné de réalisateurs, animateurs de RFI, France 24 et TV5 Monde. En mon absence, Popourri Show CUTFM vous propose une sélection de meilleurs magazines et podcasts les plus écoutés par les auditeurs de RFI à travers le monde. Vous entendrez des voix de couleur tropicale, l'émission des musiques afro sur RFI depuis 30 ans. Des débats sur l'intelligence artificielle où des experts reconnus abordent les enjeux de cette nouvelle technologie qui est en train de révolutionner notre monde. Un panorama de la presse internationale sur les sujets d'actualité. Sur le pont des arts, 50 minutes pour découvrir, partager, s'étonner, s'évader. Littérature et cinéma, stand-up ou série, peinture ou graphe, musique et slam. Tous les arts sur le pont, sur tous les continents. C'est le nouveau rendez-vous de RFI consacré à la culture avec le reportage, des chroniques et des correspondants. Et enfin, je vous invite à découvrir toutes les activités, les rendez-vous, les nouveautés littéraires, les bons plans de nos partenaires en visitant chaque semaine popourrichaud.com. Popourri Show, 38 ans déjà, en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde et France 24. Reportages, chroniques et des émissions originales à écouter absolument ou réécouter sur popourrichaud.com. CUTFM, Popourri Show. Écoutez le monde autrement à partir des mots et des sons des francophonies d'ici et d'ailleurs.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Une vie au service de l'Église. Le voici désormais qui repose en paix. Ce matin, le Vatican partage les premières images du corps du pape François dans son cercueil en bois. Épuré, bien loin de la tradition des trois cercueils imbriqués, décorés, dans lesquels reposent habituellement les souverains pontifes. Nous sommes ici dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, là où le pape a vécu depuis son élection en 2013. Nathalie Bécart, la première femme nommée par le pape François à un haut poste de responsabilité au sein de l'Église, fait partie des rares à avoir déjà pu se recueillir auprès du défunt.
Ce qui m'a particulièrement touchée dans ma prière aussi, c'est cette humanité du pape et qui a aussi fait voir cette humanité de l'Église.
Comme le veut le protocole, les appartements du pape François ont été scellés à l'aide de ce ruban rouge, quelques heures avant la mise en bière de son corps hier soir. Avant que débute le conclave dans 2 semaines environ, les cardinaux accueillis comme des hommes politiques se sont rassemblés ce matin pour définir le programme des prochains jours.
Le plus important en ce moment, c'est de continuer à prier.
À 9h demain, le cercueil du pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront se recueillir avant les obsèques prévues samedi matin.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, en hommage au pape François, le pape des pauvres, décédé le lundi de Pâques 2025 à Rome. Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans des suites d'un AVC après une dernière apparition publique pour la messe pascale de dimanche de Pâques. Apparition inespérée après sa récente hospitalisation. Au Vatican, comme à Notre-Dame de Paris, à Toronto, Montréal et partout dans le monde, des milliers de fidèles se rassemblent depuis sa mort pour rendre hommage au souverain pontife François. Un homme de conviction et de contradiction, qui défendait les pauvres et les migrants, tout en refusant de réformer en profondeur l'Église catholique. Avec la mort du pape François, l'Argentine perd le premier souverain pontife de son histoire. Avant de prendre à la tête de l'Église catholique en tant qu'évêque de Rome, pape François avait été l'évêque de Buenos Aires de 1998 à 2013, 15 ans au service des pauvres de son pays, au risque parfois de froisser le pouvoir argentin. Le président argentin, Javier Milei, a décrété 7 jours de deuil national, qui lui avait copieusement insulté le pape François, qu'il avait traité de gauchiste et de personnage néfaste. Depuis son élection à la tête de l'Argentine, Javier Milei s'était réconcilié avec son compatriote, dont il salue aujourd'hui la bonté et la sagesse. Édition spéciale en hommage au pape François, le pape des pauvres. 2 heures non-stop. Retour sur 12 ans de pontificat marqué par des convictions et des contradictions. Quel héritage controversé du pape François disparu aujourd'hui. Avec des historiens et des sociologues, des religions. Musique Maître James. Une émission proposée par Eric Kader sur www.cut.fm. En partenariat avec RFI TV5 Monde et France Inter. Montage, mixage, DJ Devera et ses acolytes au studio Hart House, University de Toronto.
Rome, Paris, Buenos Aires, Madrid, 4 villes parmi des dizaines d'autres qui rendent hommage ce soir au pape François, mort à l'âge de 88 ans. Hier, rassemblant ses toutes dernières forces, le pape était apparu place Saint-Pierre pour la traditionnelle bénédiction de Pâques. Ignacio Bordassin, Lise Cloix et Pauline Normand.
En ce moment même, la place Saint-Pierre est un immense lieu de prière. Des chants remplis d'émotion pour tous ces croyants venus saluer la mémoire du souverain pontife. Ils ont afflué par milliers toute la journée sur la place Saint-Pierre, en hommage au pape François. Des catholiques venus du monde entier pour qui le souverain pontife était un guide spirituel.
C'est un pape qui a tellement fait pour la paix et le bien du monde.
C'est un homme qui a innové pour l'Église, un homme qui va laisser un grand héritage. Son absence nous cause beaucoup de douleur.
Un pape qui aura su parler à toutes les générations de croyants venus à Rome pour célébrer Pâques.
C'est une grande émotion, une grande tristesse pour toute la population, pour les jeunes et même pour les personnes âgées.
On l'a vu hier midi, quoi. C'était à midi et là ce matin, il était décédé.
Le pape François est apparu aux fidèles hier pour la dernière fois au balcon du Vatican pour la messe pascale. Très affaibli, il a seulement pu adresser quelques mots à la foule. Chers frères et sœurs,
bona Pasqua.
Joyeuse Pâques.
Espírito Santo. Amen.
À 88 ans, le pape François sortait tout juste d'une lourde hospitalisation de près de 40 jours, atteint d'une pneumonie. Ses fidèles l'ont toujours accompagné pendant sa convalescence jusqu'au 23 mars, jour de sa sortie.
Merci à tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli e brava.
Ce matin, l'annonce de sa mort est tombée comme un couperet.
À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, le pape François, est retourné dans la maison du Père.
Les cloches du Vatican retentissent en sa mémoire. Le pape François n'apparaîtra plus jamais au balcon. Stéphanie et sa famille ne sont pas croyants. En vacances à Rome, ils ont tenu à vivre ce moment historique.
Bah, c'est émouvant, ça fait forcément quelque chose, même si on n'est pas forcément de religion catholique.
Un peu plus loin, nous rencontrons Art, un Américain très ému aujourd'hui. Il a pu voir le pape à deux reprises au cours de sa vie.
Il s'arrêtait devant chaque personne et il se concentrait uniquement sur vous. Je souhaite vraiment pouvoir lui rendre un dernier hommage lorsque son cercueil sera exposé.
Ce soir, près d'un milliard et demi de catholiques ont perdu leur souverain pontife.
Ce matin, à 11h précise, les cloches de Notre-Dame ont sonné 88 fois pour les 88 années de vie du pape. De tous les pays, la France est celui qui a reçu le plus souvent la visite de François. Il est venu à trois reprises et a laissé à chaque fois plus qu'un souvenir, une marque indélébile. Ce fut le cas en septembre 2023 à Marseille. Mathias Béringer, Amaël Brignoli et Kezia Cretin.
Ce soir, difficile de se faire une place dans les travées de la cathédrale de la Major.
Nous sommes tous un peu orphelins.
Une messe pour rendre hommage au pape François décédé ce matin. Toute la journée, les Marseillais ont tenu à saluer la mémoire du chef de l'Église.
Hier, on l'a vu très fatigué. Hein. Quand il a parlé, quand il a fait la bénédiction, on le trouvait fatigué. Mais quant à mourir ce matin, non, quand même.
Il respirait la bonté, l'amour.
Une affection que les habitants de la cité phocéenne ont pu lui témoigner directement. C'était en septembre 2023. Depuis son homélie dans un stade vélodrome aussi fervent qu'à l'accoutumée, le pape François avait tenu à saluer ses fidèles en français.
Bonjour Marcel, bonjour la France.
Ce sourire aura aussi laissé une marque indélébile non loin d'ici, en Corse. Une visite historique pour un pape. La dernière hors d'Italie pour François, en décembre dernier, accueilli là aussi à bras ouverts.
Merci pour toute cette journée, au cours de laquelle je me suis senti comme à la maison.
Aujourd'hui, dans les rues d'Ajaccio, ceux qui l'ont aperçu se souviennent.
Tout le monde y était, tous mes enfants, mon épouse, voilà. Et c'est triste, c'est un grand homme.
Il y avait une ferveur et vraiment on se sentait transporté, d'abord par le message et aussi par sa présence.
Une présence, ressentie aussi par les 25 000 visiteurs et croyants, présent au sanctuaire de Lourdes aujourd'hui.
Ce lundi de Pâques, soyez les bienvenus à la grotte de Massavière.
Malgré la peine, la nouvelle n'est pas venue gâcher les festivités, au contraire.
C'est symbolique parce que voilà, le pape est mort aussi à l'occasion de la fête de Pâques. Donc c'est un message d'espérance pour nous chrétiens qui croyons à la résurrection.
Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Autour de Notre-Dame de Paris ce soir, de nombreux passants retiendront ces prises de position.
un homme qui a tenté des progrès, qui en a initié certains, qui a peut-être pas eu le temps de les initier tous ou peut-être pas le pouvoir de les initier tous.
Une veillée se tient en ce moment à Notre-Dame de Paris pour célébrer un pape qui aura su marquer les Français de son empreinte.
Et à l'instant, le Vatican a précisé la cause de la mort du pape François qui a succombé à un AVC ce matin dans son appartement de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Le 13 mars 2013, lorsque Jorge Bergoglio est élu pape, son nom est inconnu en dehors de son pays natal, l'Argentine. Immédiatement, il laisse entendre qu'il va agir vite, réformer, dépoussiérer, bousculer l'institution. L'Église, dit-il, doit être populaire, loin de l'argent qui brille et proche des exclus. François, premier pape non européen depuis l'Antiquité, aura marqué son temps. Pierre Corrieux, Florence Lecnec et Esther Lefebvre.
Un pontificat commence toujours de la même manière.
Habemus Papam.
Mais ce 13 mars 2013 marque une rupture.
La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François.
Un nom inédit pour un pape, en référence à Saint François d'Assise. Un marqueur déjà de son engagement en faveur des plus fragiles.
Buonasera.
Il est le premier souverain pontife jésuite, le premier aussi originaire d'Amérique latine.
On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde.
Il succède à Benoît XVI, qui vient de démissionner. Image historique, un pape et son successeur réunis, du jamais vu depuis 7 siècles. L'un de ses premiers gestes, symbolique, délaisser les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, une sobriété qu'il cultivera tout au long de sa vie. Celui qui n'est pas encore pape s'appelle Jorge Bergoglio. Pour les habitants de ce quartier, le plus dangereux d'Argentine, il restera leur prêtre, connu pour y mener une vie en toute simplicité.
Le cardinal, il venait toujours à pied par cette rue-là. Il était toujours habillé comme moi, comme un prêtre lambda. Il venait souvent dire la messe.
Et il s'agenouillait devant les laissés pour compte, leur laver les pieds. Un geste qui aurait sauvé cet homme, dit-il, de l'enfer de l'alcool et de la drogue.
Il m'a fait comprendre que j'avais une valeur pour Dieu. Si je ne l'avais pas rencontré, c'est sûr, je serais mort.
Un jésuite aux origines modestes. Ses parents sont immigrés italiens. Son père est cheminot, sa mère femme au foyer. Beaucoup se souviennent l'avoir rencontré dans le bus, dans le métro ou encore au stade de foot. Depuis toujours, il est un fidèle supporter de San Lorenzo, petit club de Buenos Aires. Voici d'ailleurs sa carte de membre, datée de 2008. Des origines modestes qu'il n'oubliera pas lorsqu'il deviendra pape. Et ce n'est pas un hasard si son tout premier déplacement a lieu ici, sur l'île de Lampedusa en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée.
La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres. Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer.
En 2016,
après une visite sur l'île grecque de Lesbos, il fait monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François assume son style, son franc-parler, comme lors de ce discours en plein cœur d'un quartier de Naples, tenu par la mafia.
Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue.
Offensif sur tous les sujets. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier pape à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Un diplomate actif, un chef d'État qui a su rester accessible à ses fidèles. Les Français ont pu le constater lors de ses déplacements en France, notamment à Marseille et Ajaccio.
Marseille précisément. L'archevêque de la deuxième ville de France, Jean-Marc Aveline, était particulièrement proche du pape. Comme tous les autres cardinaux électeurs, il a reçu aujourd'hui une notification venue de Rome lui demandant d'être au Vatican demain à partir de 9h. Il avait côtoyé le souverain pontife lors de sa mémorable visite à Marseille. Écoutez le souvenir qu'il en garde.
Sa personnalité, c'était paternelle, dans tous les sens de ce mot, c'est-à-dire à la fois exigeant et aimant. Voilà. Exigeant, mais il y avait toujours la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir être écouté. Moi, je retiens surtout cette proximité toute familiale. Et j'ai eu à cœur pour moi de montrer aussi aux Marseillais que ce pape-là faisait partie de la famille.
Au cours de son pontificat, le pape François, adepte du franc-parler, n'a pas ménagé les puissants. À l'annonce de sa mort, tous ont néanmoins salué sa mémoire. Plusieurs pays ont décrété un deuil national. En Argentine, son pays natal, il durera 7 jours. Amandine Kreff, Alice Dubernet et Amaury Lhermitte.
À Buenos Aires ce matin, spontanément, les fidèles viennent prier le pape François. Il était archevêque ici, dans cette cathédrale, place de Mai. À la sortie de la messe, les fidèles se disent fiers de l'avoir connu.
J'ai été confirmée à mes 9 ans par le pape François. C'est pour ça qu'avec ma famille, on se sentait très proche de lui.
Il représentait les personnes pauvres, ce que l'Église ne faisait pas avant.
Il a changé énormément de choses dans l'Église. Il parlait particulièrement aux jeunes, qui sont normalement les plus difficiles à ramener à l'Église. C'est dans le confessionnal de cette basilique, dans la banlieue de Buenos Aires, qu'en 1953, le pape disait avoir ressenti l'appel de Dieu.
Je l'ai toujours eu à mes côtés. Je viens ici tous les dimanches. Pour moi, cette église est mon havre de paix.
Partout dans le monde, des milliers de fidèles bouleversés. À Bethléem, ou ici, en Afrique du Sud, sur les marches de la cathédrale du Cap.
Au nom de Jésus, merci beaucoup.
J'espère que le prochain pape sera aussi bon que celui-ci, qui laisse de très bons exemples.
Le pape, ce prêtre l'avait rencontré il y a 2 ans, lors de sa visite en République démocratique du Congo.
Lorsqu'il est arrivé, à l'entrée de l'église, il a commencé par nous bénir, le cardinal et moi, qu'il soit venu ici chez nous, ça renforce le sentiment que le pape aimait beaucoup la RDC.
Aux hommages des fidèles se mêlent les mots des chefs d'État.
Le très Saint-Père n'est plus et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment.
Donald Trump, lui, s'exprime depuis la Maison Blanche lors de la traditionnelle cérémonie de Pâques.
C'était un homme bon. Il travaillait beaucoup. Il aimait le monde.
D'autres réagissent sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle qui nous attriste profondément, car un grand homme et un grand pasteur nous quittent.
Il savait comment donner de l'espoir, soulager la souffrance par la prière et favoriser l'unité. Il a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens.
Tout en condamnant la guerre en Ukraine, le Vatican n'a jamais cessé le dialogue avec la Russie.
C'est un homme, je tiens à le souligner une fois de plus, qui avait une attitude extrêmement positive envers la Russie. Et nous nous en souviendrons.
Plusieurs pays ont déjà annoncé une période de deuil national. 3 jours en Espagne et au Portugal. 7 jours en Argentine.
Dès les premiers mois de son pontificat, le pape François a voulu rompre avec ses prédécesseurs. En 2014, il accuse de nombreux cardinaux d'être, je le cite, « en état de fossilisation mentale et spirituelle ». Lui se veut ouvert d'esprit. Mais quel est au juste son héritage sur les questions de société et sur les scandales sexuels qui ont fait vaciller l'Église catholique? Gwenaël Bellec, Nathalie Murviedreau et Annie Bazar.
Proche des gens, le pape François s'est aussi voulu réformateur. S'illustrant par son franc-parler, l'année suivant son élection, les cardinaux de la Curie, le gouvernement du Vatican, ont ainsi subi les premières foudres papales. François, dénonçant notamment les courbettes des courtisans du Vatican.
La maladie des méchants, ceux qui préfèrent parler dans le dos des personnes et non pas devant. Une façon de tuer les réputations des autres.
Celui qui avait choisi une vie plus simple a aussi ouvert l'église aux couples remariés et aux couples homosexuels avec cette phrase, rentrée dans l'histoire.
Si quelqu'un est homosexuel, cherche le Seigneur et de bonne volonté, qui suis-je pour le juger ?
Il y a un an et demi, le pape François a ainsi autorisé la bénédiction des couples homosexuels, sans pour autant autoriser leur mariage à l'Église.
Contrairement à son prédécesseur, il a vraiment refusé de mettre en premier la condamnation morale pour dire qu'il faut d'abord aller à la rencontre des personnes, et c'est vraiment d'abord ça qu'il a incarné. Mais il n'a pas eu de travail théologique pour vraiment transformer sur le fond le discours de l'Église catholique.
Le pape a également ouvert la gouvernance du Vatican aux femmes. Pour la première fois, l'une d'entre elles est à la tête d'un ministère du Vatican, Simona Brambilla. Pour la première fois également, près de 15% de femmes dans un synode, conseil, qui ordinairement ne réunit que des évêques. Parmi elles, notamment cette Française, Nathalie Bécart.
Le seul problème que ça pose, c'est que cette décision, elle ne change pas la norme dans le gouvernement de l'Église. C'est-à-dire que le pape suivant ne sera pas obligé de nouveau de nommer des femmes. Il n'y a pas de règle de parité qu'il a beaucoup écrit, le pape, sur le sable, et il n'y a pas beaucoup gravé dans le marbre. À Rome, il vaut mieux graver dans le marbre.
Autre avancée face à l'ampleur des crimes pédophiles dans l'Église, le pape François a fait part de sa honte, rendant obligatoire le signalement de tous les cas. L'Église a ouvert ses archives. Un cardinal américain reconnu coupable a été rendu à l'état laïque, défroqué. Le pape François est resté inflexible dans plusieurs autres domaines. L'avortement, la fin de vie ou le mariage des prêtres.
Bonsoir Mathieu Carman, vous êtes en duplex du Vatican depuis la place Saint-Pierre, une place qui se remplit de minute en minute. Que va-t-il se passer précisément dans les heures à venir ? Ce que l'on sait, c'est que rien n'a été laissé au hasard.
Oui, rien n'a été laissé au hasard. 9 jours de deuil national ont donc débuté ce matin. Ce que l'on sait, c'est que le Vatican envisage d'exposer la dépouille du pape François ici dans la basilique Saint-Pierre pour que les fidèles du monde entier puissent venir lui dire un dernier au revoir. Des fidèles que l'on a croisés qui viennent d'Italie, bien sûr, mais aussi de France, d'Espagne ou encore d'Argentine, pays de naissance du pape François. Des drapeaux argentins qui ont d'ailleurs été positionnés de part et d'autre de cette place Saint-Pierre. On peut voir des personnes assez émues. Sachez que la constitution apostolique prévoit l'inhumation du Saint-Père entre le 4e et le 6e jour suivant son décès, c'est-à-dire entre vendredi et dimanche. La congrégation des cardinaux va se réunir demain pour choisir la date exacte. Ce que l'on sait, c'est que des chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont attendus ici au Vatican.
Merci Mathieu Carman. Depuis 7h35 ce matin, l'Église catholique est entrée dans une période dite en latin de sede vacante, c'est-à-dire de siège vacant laissé par la mort du pape. Dans une quinzaine de jours, 135 cardinaux électeurs venus du monde entier s'enfermeront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire le 267e pape de l'histoire, Nicolas Robertson et Élise Kousmak.
D'ici 15 à 20 jours, la chapelle Sixtine sera transformée. Plus aucun touriste. On y installera les chaises, le plancher et le fameux poêle en fonte avec sa cheminée. Tout doit être prêt pour accueillir les cardinaux. Ils y seront enfermés avec pour seul objectif élire parmi eux le successeur du pape François. C'est le conclave, littéralement conclavé en latin, fermé à clé. Après chaque vote, jusqu'à 4 par jour, les bulletins sont brûlés dans le poêle avec l'ajout de fumigène pour communiquer le résultat à la foule massée à l'extérieur. Fumée noire, vote non concluant. Blanche, le successeur est désigné à la majorité des 2/3. Durant l'élection, tout contact avec le monde extérieur est interdit aux cardinaux. En dehors des votes, ils sont reclus au Vatican, à la résidence Sainte-Marthe. Aucun portable, aucun ordinateur n'est autorisé. Derrière ces murs, c'est une sorte de campagne électorale qui se joue. Les cardinaux débattent, des stratégies sont élaborées. Des camps s'affrontent et des candidatures émergent.
Quel homme sera capable de prendre cette charge sur les épaules, d'être un homme suffisamment médiatique pour s'adresser au monde entier, d'être un bon leader pour coordonner toutes ces différences entre eux, et c'est ça le conclave.
Ce scrutin sera inédit. Car pendant son pontificat, le pape François a profondément modifié le collège des cardinaux. Sur les 135 cardinaux électeurs de moins de 80 ans, il en a nommé 108, venus de tous les coins du monde. D'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Majoritairement des réformateurs, partisans d'une église plus ouverte sur le monde. Une manière de peser sur le choix de son successeur.
C'est un héritage moral et politique, parce que le Vatican, disons-le, est très politique. Et c'est important, c'est marquer son empreinte, alors peut-être pas pour l'éternité, mais pensez que vos idées vous survivront.
Parmi ces cardinaux électeurs, 5 Français et un Franco-Algérien. Philippe Barbarin, Jean-Marc Aveline, Christophe Pierre, Dominique Monberti, François-Xavier Bustillot et Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. Mais d'après les observateurs, aucun ne fait figure de favori. Pour l'instant, les regards se tournent vers les cardinaux italiens, avec en tête Pietro Parolin, l'actuel secrétaire d'État du Vatican. Les plus conservateurs, eux, préfèrent le Guinéen Robert Sarah, soutenu par les cardinaux africains.
Un candidat qui serait trop clivant ne peut pas rassembler. Et c'est ce qui fait dire que dans le prochain conclave, comme dans les précédents, un candidat très progressiste ou au contraire très conservateur n'a pas de chance.
Une dizaine de noms de favoris, ce qu'on appelle les papabilés, circulent actuellement.
Il est parti, le Saint-Père François, une âme de paix, un cœur immense, repose en Dieu dans la lumière éternelle. À matin calme, la cloche a sonné, le ciel s'est voilé. Les anges ont pleuré, toi qui priais pour les oublier. Aujourd'hui c'est nous qui prions pour t'honorer. Oh Père François, oh Mère de foi, toi qui parlais toujours tout bas, mais dans les mots guidés des millions, ton amour vivra dans nos chansons. Pose en paix, paix du Père. Toi, lumière dans l'univers, tu portais le monde sans jamais juger. Dans ton regard, la tendresse incarnée, tu marchais humblement, sans or ni trône. Ton seul royaume, les cœurs que tu pardonnes, Père François, âme de paix. Ta voix résonne encore en secret, dans chaque larme, dans chaque prière, tu restes vivant, guide de la terre. Du Père, toi lumière dans l'univers, tu portais le monde sans jamais juger, dans ton regard, la tendresse incarnée. Dans chaque larme, dans chaque prière, tu restes vivant, guide de la paix.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, en hommage au pape François, le papa des pauvres, décédé le lundi de Pâques 2025 à Rome.
ils ont parcouru 900 km pour se rendre à Rome.
Alors, heureux ?
Heureux, oui, heureuse.
C'est effectivement la mort du pape, mais pour nous, c'est incroyable.
Leur pèlerinage, prévu de longue date, prend une autre tournure. Au moment d'apercevoir la coupole du Vatican, émerveillement pour Vianney et sa sœur Sixtine.
C'est ma première fois à Rome, donc c'est très impressionnant.
C'est là qu'il y a beaucoup de papes qui ont été enterrés, et puis c'est aussi là que nous attend le pape François, donc c'est sûr qu'au niveau spirituel, c'est quelque chose, c'est sûr.
Alors qu'importe la foule, les milliers de fidèles qui affluent avec eux, qu'importe les difficultés, Marie-Alice Torres, 75 ans, file droit vers la chapelle Sixtine.
C'est la première fois, je pouvais pas rater cette opportunité. Malgré mon petit handicap, mais bon, on tient le coup.
Elle ne repartira pas sans voir le pape.
Et la guide là-bas devant, elle est en train de nous dire 5 heures de queue.
Pour voir le pape.
Mais ça va vous décourager ?
Non. Alors là, pas du tout.
Les fidèles français tiennent à honorer le pape François. Et pour assister à ses obsèques, cette étudiante a même chamboulé son calendrier.
Il fallait que je reparte à l'université hier, mais j'ai prolongé et je vais repartir dimanche matin pour pouvoir assister au funérailles à Saint-Pierre. Si on pense que même les présidents viendront, ce sera quelque chose d'exceptionnel.
À événement exceptionnel, tenue exceptionnelle, même si ces touristes du Luxembourg sont un peu pris de court.
On a pris pour visiter des baskets, des habits normaux, mais on va aller faire un peu de shopping aussi pour sûrement une chemise, un truc comme ça, quand même respectueux. Ma mère a été très émue aussi par la mort. Donc c'est une occasion, je viens à sa place, je prends des photos comme ça, comme si elle était là.
À Rome ou depuis l'Hexagone, les catholiques français seront nombreux à suivre les obsèques samedi.
Sur la place Saint-Pierre de Rome, les cloches retentissent. Mais en ce lundi de Pâques, journée si symbolique pour les chrétiens, le pape ne se présentera pas au balcon.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Devant la basilique, la nouvelle se répand. Des milliers de fidèles venus du monde entier affluent pour rendre un dernier hommage au souverain pontife.
Je suis vraiment choquée et il y a une sorte d'agitation autour de nous maintenant. Mes pensées vont aux pèlerins qui sont ici, mais surtout pour le pape lui-même. C'est une très triste nouvelle, une grande perte pour l'Église et pour le monde entier.
Vraiment, aujourd'hui, c'était un jour pour pleurer.
Les trois familles syriennes, de confession musulmane, sont accueillies à Rome par le Vatican. Un geste de solidarité qui ne sera pas forcément bien perçu.
Ils sortent de l'avion du pape et ils vont faire leur demande d'asile à Ciampino. Je me souviens d'ailleurs avoir rencontré par la suite ces migrants qui découvrent le soir même à Rome. Ils ouvrent leur téléphone et sur leurs réseaux sociaux, ils comprennent qu'en fait, le monde entier interroge leur présence, la polémique, pourquoi ils sont dans l'avion du pape et ils sont musulmans. Et c'est vrai que même dans le trajet retour, il y a des journalistes qui interrogent le pape sur « Mais pourquoi ? Pourquoi vous ramenez des migrants et pourquoi des migrants musulmans ?» Et le pape leur répond « Mais être chrétien n'est pas un privilège. » Et ça, voilà, là, on commence à sentir effectivement une distanciation vis-à-vis de François qui pose des gestes de plus en plus politiques.
Une action qui incarne une autre volonté du pape François, réinstaurer le dialogue avec le monde musulman alors que les débats sur l'islam déchirent l'Europe.
Que lui, il est né dans une ville multiculturelle, Buenos Aires, où il dialogue depuis qu'il est archevêque avec le rabbin, avec les musulmans. Effectivement, il n'a peut-être pas mesuré à quel point les opinions publiques nationales et notamment les catholiques en France sont beaucoup plus rétifs. Il y a eu les attentats en France, et la question de la place de l'islam est un problème depuis des décennies.
Un pape politique qui n'hésite pas à affronter les puissants, comme lors de la campagne américaine de 2016. Lors d'une visite au Mexique, Il choisit de se rendre à la frontière avec les États-Unis pour bénir ce crucifix géant appelé la croix du migrant, planté sur un monticule qui surplombe la frontière de Barbelé.
La tragédie humaine qu'est la migration forcée est aujourd'hui un phénomène mondial.
Un geste perçu comme une provocation. Dans un contexte où Donald Trump a axé sa campagne présidentielle sur la lutte migratoire.
Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne.
La réponse de Donald Trump ne se fait pas attendre.
Je suis un bon chrétien. Le pape a dit que peut-être Donald Trump n'était pas chrétien. J'étais très surpris de voir qu'il remettait en question ma foi. Mais je suis chrétien et fier de l'être.
Le pape François n'a eu aucune inclination pour Donald Trump. Ça a été très net depuis le début. Le programme de Trump, la brutalité de Trump, tout ça lui est totalement étranger.
Le bras de fer va perdurer et même s'accentuer avec le deuxième mandat et la politique de déportation massive de Trump.
François et Trump se sont littéralement télescopés frontalement. François a réitéré évidemment son rejet, sa condamnation de cette politique donc qui vise à renvoyer les immigrés chez eux et quelque part à les déshumaniser, puisque ce sont vraiment désignés comme des millions d'indésirables qui sont là pour quelque part insécuriser la société américaine. Et ça, c'est quelque chose que François ne peut pas entendre.
Et le pape va répondre donc par cette lettre qu'il envoie aux évêques américains, dans laquelle il explique simplement que c'est absolument impossible pour un catholique, éthiquement, moralement, d'accepter de trouver ça normal.
Une lettre envoyée alors qu'il était déjà gravement malade, juste avant son hospitalisation, mi-février.
J'exhorte tous les fidèles de l'Église catholique, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté, à ne pas céder aux récits qui discriminent et causent des souffrances inutiles à nos frères et sœurs migrants et réfugiés.
Ironie de l'histoire, son dernier visiteur officiel sera J.D. Vance, le vice-président américain venu officiellement pacifier les relations. A-t-il réussi ? Rien n'a filtré de leur discussion. Ancré dans ses convictions, le pape François n'hésite pas à bousculer, y compris ses propres fidèles. Comme ici, lors de l'un de ses tout premiers déplacements, lorsqu'il est questionné sur l'homosexualité.
Si une personne gay cherche Dieu et est de bonne volonté, qui suis-je pour le juger ?
Et là, pour la première fois, on a un pape qui va mettre en avant l'accueil, la miséricorde, tendre la main aux homosexuels. Il dit pas, évidemment, il dit jamais que l'homosexualité n'est pas un problème, entre guillemets. En tant que leader catholique, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, il faut accueillir.
Une modernité acclamée par certains, qui va vite trouver ses limites sur d'autres thèmes majeurs.
Et il a dérangé absolument tout le monde pendant son pontificat. Quand la semaine d'après, ou le jour d'après, ou l'heure d'après, il va parler de l'avortement et dire que les médecins qui le pratiquent sont comme des tueurs à gages, il va exaspérer les premiers qui étaient ravis du propos du début sur les migrants. Et quand il parle de la planète et de l'écologie en disant que tout ça est totalement lié, que pour lui c'est le même respect de la vie qui est en jeu dans tous les cas, eh bien il va encore exaspérer d'autres gens.
Au-delà des clivages, quel sera l'héritage du pape François ? Que restera-t-il de ses combats ?
Bergoglio, c'est une vie de combat. Toute sa vie, il a lutté contre la hiérarchie, contre des tas de choses. Et il ne laisse pas forcément que du positif sur la pédophilie. Est-ce qu'il est allé assez loin ? Sans doute pas.
Il restera aussi un style d'exercice de la papauté qu'on n'avait jamais vu. Pour moi, il restera ce pape religieux, exigeant, extrêmement dérangeant avec tout le monde et qui appelle à une forme de radicalité. Il faut être cohérent, donc il faut refuser toutes les compromissions. Et ça, pour les catholiques, c'est un appel très fort.
Alors que s'organise le prochain conclave, les cardinaux décideront-ils de poursuivre l'héritage du pape François ? Le nom du prochain souverain pontife sera connu d'ici 2 à 3 semaines.
Édition spéciale en hommage au pape François, le pape des pauvres. 2 heures non-stop. Retour sur 12 ans de pontificat marqué par des convictions et des contradictions. Quel héritage controversé du pape François disparu aujourd'hui. Avec des historiens et des sociologues, des religions. Musique Maître James. Une émission proposée par Eric Kader sur www.cut.fm. En partenariat avec RFI TV5 Monde et France Inter. Montage, mixage, DJ Devera et ses acolytes au studio Hart House, University de Toronto.
60 000 catholiques et autres sont venus se recueillir devant le cercueil du pape. Les portes qui devaient fermer à minuit sont finalement restées ouvertes jusqu'au petit matin. Pauline Godard, vous êtes en direct du Vatican. Bonjour à vous. Les files d'attente s'étendent donc. Il faut faire preuve de patience.
Bonjour Julien. Et oui, vous le disiez, plus de 60 000 personnes se sont déjà rendues à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre pour se recueillir sur devant le cercueil du pape François. C'est un flux continu de personnes qui arrivent et il faut en effet parfois s'armer de patience puisque nous avons rencontré des gens, par exemple hier, qui avaient mis plus de 4 heures. Il fait beau ici, il fait chaud, des bouteilles d'eau sont distribuées. On a vu certaines personnes aussi dans la file d'attente avec des parapluies pour se protéger du soleil. Et nous nous sommes rendus nous aussi dans cette basilique Saint-Pierre hier et on a pu constater que le silence y règne. Lorsque vous arrivez au niveau du cercueil du pape François, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Vous avez quelques secondes à peine pour passer devant. Certains prennent des photos, d'autres font des signes de croix, d'autres pleurent. Voilà comment ça se passe, mais ça n'a pas empêché toutes les personnes avec qui nous avons parlé de nous dire qu'elles étaient contentes d'avoir pu dire une dernière fois au revoir au pape. Vous le disiez également, la basilique qui devait fermer hier à minuit a été ouverte jusqu'à 5h30 du matin et ça devrait sans doute recommencer ce soir, être ouvert jusqu'au petit matin. Je vous propose d'écouter le témoignage de certains fidèles une fois qu'ils sortaient après avoir vu la dépouille du pape François.
C'est émouvant. Vous savez, quand je suis entrée dans l'église, j'ai pleuré. C'est très spécial parce que j'étais ici il y a 8 ans. Je l'ai vu à la fenêtre et maintenant je suis ici. Oui, c'est particulier.
Dimanche, je me suis fait baptiser et mon cadeau de baptême, c'était mes parents qui me l'ont offert, c'est d'aller et j'ai eu la chance d'aller à Rome et j'ai vu le pape dans sa tombe. Je suis très content de l'avoir vu. Et c'était émouvant.
Voilà Pauline pour le côté pile, côté face. Maintenant, ce qu'on ne voit pas, eh bien, ce sont les préparatifs pour les funérailles de samedi qui s'organisent.
Oui, tout à fait. Alors, il y a certaines choses tout de même qui se voient, en tout cas, et qu'on a pu constater juste avant de rentrer dans la basilique Saint-Pierre. On a vu que tous les sièges étaient en train d'être mis en place. Ce sont ces sièges qui vont accueillir tous les chefs d'État, notamment les chefs du gouvernement, les rois qui sont attendus. Emmanuel Macron sera là, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, Donald Trump également, le roi d'Espagne, mais aussi le prince William. On sait que le dispositif de sécurité, déjà à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, mais aussi autour de la basilique Saint-Pierre, est extrêmement conséquent. En temps normal, là, il va être considérablement renforcé. Je ne sais pas si vous entendez également, il y a un hélicoptère qui tourne au-dessus de nos têtes et au-dessus du Vatican de façon continue. On l'entend énormément depuis hier. Ce dispositif renforcé autour de la basilique Saint-Pierre va être sans doute étendu également jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, puisque c'est là que le pape François va être inhumé. Et une fois la messe terminée à la basilique Saint-Pierre, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, eh bien une procession va démarrer. Il y a 6 km entre la basilique Saint-Pierre et la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et il va donc falloir mettre tout un dispositif en place. On sait que plusieurs réunions ont lieu en ce moment, justement, pour mettre tout cela en place.
Et on m'a dit que vous étiez rendu avec l'équipe de France 24, donc dans cette basilique Sainte-Marie-Majeure, Pauline.
Oui, il y a énormément de monde. Alors il est vrai que ce lieu est déjà extrêmement fréquenté en temps normal, mais depuis l'annonce de la mort du pape et depuis que l'on sait qu'il sera inhumé dans cette basilique, eh bien les personnes se bousculent pour s'y rendre. On a vu qu'il y avait une très longue file d'attente. Alors pourquoi le pape François a-t-il choisi la basilique Sainte-Marie Majeure? Eh bien il l'a choisi car c'est une basilique qui était très importante à ses yeux. Il y allait très régulièrement avant d'être pape, mais aussi il y est allé au lendemain de son élection. Il s'y rendait également à chaque fois pour prier avant chaque voyage et au retour aussi de chaque voyage. Et puis finalement, il a resté fidèle à lui-même, ce pape François, qui voulait être enterré au plus près du peuple et au cœur de Rome.
On continue de dérouler le programme, Pauline, après le deuil, après les funérailles. Ce sera place au conclave avec les cardinaux qui continuent d'affluer au Vatican. On n'a pas encore de date précise pour la tenue de ce conclave.
Non, pas encore en effet de date précise. Alors, il paraîtrait qu'on serait plutôt fixé une fois les funérailles du pape François terminées, donc peut-être d'ici dimanche ou peut-être d'ici le début de la semaine, mais il faut bien sûr rester prudent. Alors il y a pour l'instant plus d'une centaine de cardinaux qui sont arrivés sur les 252 cardinaux. Sur ces 252 cardinaux, il y en a 135 qui sont des cardinaux électeurs qui vont donc participer à ce conclave pour élire le pape qui succédera au pape François. Ce qui est important de souligner, c'est que tous ces papes, y compris les non-électeurs, participent en ce moment à des congrégations générales. Ces congrégations générales permettent de définir ce dont a besoin l'Église et quel profil l'Église aimerait avoir comme pape. Et c'est aussi le moment pour que des alliances commencent à s'entremêler, les gens parlent. Et puis, il faut rappeler que tous ces cardinaux ne se connaissent pas. 80% de ces cardinaux ont été nommés par le pape François, mais ça veut pas forcément dire qu'ils étaient à 100% dans la même ligne que le pape François. Ce que l'on sait de sûr, en tout cas, c'est que ce conclave, il doit débuter entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape. Ce sera donc soit entre le 5 et le 10 mai.
De lumière. Ta voix apaisait nos douleurs dans un monde rempli de misère. Tu semais la paix et l'honneur. Aujourd'hui ton âme s'élève, Seigneur. François, humble père des nations, témoin vivant de l'Évangile, tu portais en ton cœur les prisons, les blessés, les cœurs en exil. Ton départ nous laisse un vide fragile. François, messager de tendresse, ton regard disait pardon. Tu prêchais la foi et l'adresse de Jésus, notre fondation. Ton exemple est notre oraison. François, pèlerin du silence, tu marchais avec les petits. Avec toi, l'amour prenait sens. l'église reprenait sa vie. Ton souvenir jamais ne s'oublie.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Bonjour et bienvenue sur Popourri Show, CUTFM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, accompagné de réalisateurs, animateurs de RFI, France 24 et TV5 Monde. En mon absence, Popourri Show CUTFM vous propose une sélection de meilleurs magazines et podcasts les plus écoutés par les auditeurs de RFI à travers le monde. Vous entendrez des voix de couleur tropicale, l'émission des musiques afro sur RFI depuis 30 ans. Des débats sur l'intelligence artificielle où des experts reconnus abordent les enjeux de cette nouvelle technologie qui est en train de révolutionner notre monde. Un panorama de la presse internationale sur les sujets d'actualité. Sur le pont des arts, 50 minutes pour découvrir, partager, s'étonner, s'évader. Littérature et cinéma, stand-up ou séries, peinture ou graphes, musique et slam. Tous les arts sur le pont, sur tous les continents. C'est le nouveau rendez-vous de RFI consacré à la culture, avec le reportage, des chroniques et des correspondants. Et enfin, je vous invite à découvrir toutes les activités, les rendez-vous, les nouveautés littéraires, les bons plans de nos partenaires, en visitant chaque semaine popourrichaud.com. Popourri Show, 38 ans déjà, en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde et France 24. Reportages, chroniques et des émissions originales à écouter absolument ou réécouter sur popourrichaud.com. CUTFM, Popourri Show. Écoutez le monde autrement à partir des mots et des sons des francophonies d'ici et d'ailleurs. Ciné Franco, 25 ans et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourrichaud.com, 25 ans, ça se fête. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. Et oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, ont le plaisir de vous présenter la 5e saison. Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Avec la soif d'apprendre, un membre du CREFO s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette 5e saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/CREFO ou tout simplement popourichaud.com. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourrichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Autre image de la matinée, des fidèles qui ont attendu jusqu'à 4 heures pour pouvoir se recueillir devant la dépouille du pape François. Et certains renoncent déjà, vu l'affluence. Le cercueil du Saint-Père a été transféré en procession. Il est désormais exposé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Ignacio Bornassin et nos équipes sur le terrain.
Au son des cloches et des applaudissements, le cercueil du pape François rejoint la basilique Saint-Pierre. Les évêques, les cardinaux, la famille pontificale, les proches collaborateurs du pape l'accompagnent pendant la procession. Ils sont les premiers à pouvoir s'incliner face au défunt souverain pontife, placé au cœur de la nef.
On va pouvoir bientôt rentrer ?
À l'extérieur, la foule qui a assisté à la procession s'impatiente. Tous savent qu'ils vivent un moment historique. Fidèles, touristes, certains attendent déjà depuis de longues heures.
Ah, on est prêt, on va passer la journée s'il faut.
Ouais.
À 11h, les barrières s'ouvrent enfin. Des milliers de personnes se pressent à l'intérieur de la basilique. 2 mètres séparent les fidèles du cercueil ouvert du pape. Le temps est chronométré, 2 minutes par personne pour rendre hommage. Nos équipes ont pu recueillir les premiers témoignages des fidèles à leur sortie du Vatican.
C'était tellement émouvant. On attendait depuis 7 heures du matin dans la queue.
Une énorme émotion, un moment tellement puissant. Je me sens honoré d'avoir vécu ça.
J'ai senti l'envie de crier, mais de pleurer.
Un important dispositif de sécurité est maintenu à l'entrée du Vatican, avec des fouilles, des passages de portiques, avant de pouvoir accéder à la place Saint-Pierre. Le corps du pape François sera exposé aux fidèles jusqu'à vendredi soir, alors certains retenteront leur chance plus tard.
Il y avait trop de monde, on reviendra vendredi.
D'autres, qui ont assisté aux fêtes pascales à Rome, se contenteront d'avoir vécu cette procession.
On garde ce cadeau de l'avoir vu une dernière fois sur la place Saint-Pierre dimanche, d'avoir reçu sa bénédiction.
Les portes de la basilique resteront ouvertes aux fidèles jusqu'à minuit ce soir et ouvriront à nouveau à 7h demain.
Et notez que sur notre antenne, samedi matin, vous pourrez suivre les funérailles du pape François. Édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot et depuis Rome par Margot Haddad et Darius Rochebain avec de nombreux invités.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, en hommage au pape François, le pape des pauvres, décédé le lundi de Pâques 2025 à Rome. Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans des suites d'un AVC après une dernière apparition publique pour la messe pascale de dimanche de Pâques. Apparition inespérée après sa récente hospitalisation. Au Vatican, comme à Notre-Dame de Paris, à Toronto, Montréal et partout dans le monde, des milliers de fidèles se rassemblent depuis sa mort pour rendre hommage au souverain pontife François. Un homme de conviction et de contradiction, qui défendait les pauvres et les migrants, tout en refusant de réformer en profondeur l'Église catholique. Avec la mort du pape François, l'Argentine perd le premier souverain pontife de son histoire. Avant de prendre à la tête de l'Église catholique en tant qu'évêque de Rome, pape François avait été l'évêque de Buenos Aires de 1998 à 2013, 15 ans au service des pauvres de son pays, au risque parfois de froisser le pouvoir argentin. Le président argentin, Javier Milei, a décrété 7 jours de deuil national, qui lui avait copieusement insulté le pape François, qu'il avait traité de gauchiste et de personnage néfaste. Depuis son élection à la tête de l'Argentine, Javier Milei s'était réconcilié avec son compatriote, dont il salue aujourd'hui la bonté et la sagesse. Édition spéciale en hommage au pape François, le pape des pauvres. 2 heures non-stop. Retour sur 12 ans de pontificat marqué par des convictions et des contradictions. Quel héritage controversé du pape François disparu aujourd'hui. Avec des historiens et des sociologues, des religions. Musique Maître James. Une émission proposée par Eric Kader sur www.cut.fm. En partenariat avec RFI TV 5 Monde et France Inter. Montage, mixage, DJ Devera et ses acolytes au studio Hart House, University de Toronto.
Bienvenue dans le débat avec cette image du jour, le pape François dans son cercueil ouvert, le souverain pontife qui porte une mitre blanche et une chasuble rouge, ses mains enserrent un chapelet, il est encadré de 2 gardes suisses dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où il vivait. Les funérailles du pape François vont se dérouler samedi matin sur la place Saint-Pierre au Vatican. Seront présents Trump, Emmanuel Macron ou encore Volodymyr Zelensky, mais aussi bien sûr des milliers de fidèles. La question de sa succession se pose déjà alors que des cardinaux sont en route vers Rome et que d'autres sont déjà réunis au Vatican. Alors que va-t-il se passer maintenant? Quels sont les enjeux du conclave? Quels seront les grands défis pour l'Église et pour le prochain pape? Qui pourrait succéder au pape François? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Nous avons la chance d'avoir le père François Ovet ce soir avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes père jésuite et rédacteur en chef de la revue Études. Bienvenue à vous. En face de vous, Christine Pedotti est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste et directrice de la revue Témoignages chrétiens et auteur de Autopsie d'un système pour en finir vraiment avec les abus de l'Église et chez Albin Michel. Alberto Toscano est avec nous ce soir. Bonsoir. Buonasera, journaliste et écrivain italien. Vous avez écrit d'ailleurs un papier sur le pape François pour le magazine Grand Reporter. Bienvenue en face de vous, Frédéric Mounier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Journaliste, ancien correspondant de La Croix au Vatican, auteur de la biographie Le pape François, une vie, et ça c'est aux presses Châtelet. Et vous avez aussi écrit Le pape qui voulait changer l'Église, et ça c'est aussi aux presses du Châtelet. Bienvenue à vous. Tout au long de cette émission, nous allons avoir Pauline Godard avec nous, qui est notre envoyée spéciale sur la place Saint-Pierre. Bonsoir, Pauline. Avant de démarrer cette discussion, eh bien, je vous propose de faire un point en image d'abord sur le calendrier des jours à venir avec Ambroise Boulet.
Place Saint-Pierre, les pèlerins sont encore sonnés ce matin. La nouvelle de la mort du pape résonne dans toutes les langues. Et la douleur imprègne cette prière au chapelet, improvisée par ce groupe venu du Mexique.
Je ressens beaucoup de tristesse, un grand vide. Je n'ai tout simplement pas les mots, parce que jamais nous n'aurions imaginé vivre une journée aussi triste.
Le visage du pape François s'affiche partout. C'est l'unique nouvelle qui capte toutes les attentions.
D'habitude, ces journaux-là ne parlent que de sport. Mais là, la nouvelle est tellement importante. Ce pape a fait l'histoire. Alors il fait même la une des journaux sportifs.
Je ne suis pas catholique. Je ne suis même pas chrétienne. Mais j'aimais sa vision du monde. Alors je me sens triste.
Comme le veut le rituel, les appartements du pape ont été placés sous scellé. Et voici les premières images du pape François dans son cercueil ouvert dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où il vivait. Un chapelet dans les mains, sa dépouille embaumée sera ainsi exposée au public de la basilique Saint-Pierre dès demain matin où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. Les cardinaux, réunis dans une première congrégation générale ce matin, ont fixé à huis clos la date des obsèques, samedi à 10h. Autour du Vatican, ceux qui décident des prochaines étapes sont attendus par des forêts de micros, mais restent avares en détail.
Le plus important maintenant, c'est la prière. Nous accompagnons le pape avec nos prières. Pour le moment, nous nous occupons surtout de l'organisation des hommages de ces prochains jours, notamment parce que le pape François a voulu que ces journées de deuil soient plus sobres qu'auparavant.
En plus d'un deuil de 9 jours au Vatican, l'Italie se prépare à observer un deuil national jusqu'aux funérailles.
Pauline Godard, donc en direct de la place Saint-Pierre de Rome. Les fidèles commencent à arriver. La dépouille du pape François sera présentée demain.
Oui, elle sera présentée demain, en effet, puisque elle va être présentée aux fidèles. Son corps va être déplacé depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où il habitait d'ailleurs depuis 2013. Il va être déplacé pour être transféré à la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront en effet se recueillir une dernière fois auprès du pape François. Alors on l'a dit, les funérailles du pape François, eh bien, auront lieu à 10h samedi. C'était l'annonce qui était extrêmement attendue aujourd'hui et c'est le Vatican qui a fait cette annonce dans la matinée. De très nombreux chefs d'État sont attendus. Samedi, il y aura notamment Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, le roi d'Espagne, Keir Starmer, le premier ministre britannique, le prince William. Et comme vous pouvez l'imaginer, alors le dispositif qui se trouve autour, le dispositif de sécurité qui se trouve autour de la basilique Saint-Pierre est en temps normal conséquent. On sait qu'il va être extrêmement renforcé puisque des centaines de milliers de personnes sont attendues pour assister à ces funérailles. On sait également que ce samedi, eh bien, une messe sera célébrée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Ensuite, le corps, la dépouille du pape François sera ensuite transféré de la basilique Saint-Pierre à la basilique Sainte-Marie majeure, une basilique qui était très importante aux yeux du pape François. C'est pourquoi il a choisi cette basilique. C'est ici qu'il était venu prier, d'ailleurs, juste après son élection. C'est ici qu'il venait prier régulièrement avant d'être élu. Et c'est ici également qu'il se rendait avant chaque voyage et après chaque voyage. Il a expliqué également dans un court testament, il voulait être enterré de façon simple et ce qu'il désire sur son tombeau, il y aura écrit en latin tout simplement Franciscus.
Franciscus, merci, vous restez avec nous Pauline. Père François Levé, on voit que tout est très codifié, mais ces préparatifs pour ses funérailles d'ici samedi, c'est tout de même complexe, donc on s'y prépare depuis longtemps au Vatican?
Oh, j'imagine, oui, je ne suis pas très spécialiste du Vatican, mais je pense que Frédéric Mounier serait peut-être plus à l'habitude, si je puis dire, de ces événements. Mais oui, oui, bien sûr, il y a une préparation très, très rituelle, mais qui est un classique. Enfin, c'est un rituel ancien et bien, bien réglé.
Bien huilé, vous pensez, huilé. Il va être enterré à la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est consacrée au culte de la Vierge. Ça, c'est nouveau. Ça faisait 300 ans, me semble-t-il, qu'un pape n'avait pas été enterré à Sainte-Marie-Majeure. Pourquoi?
Parce que je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, il aime beaucoup cette basilique où il allait fréquemment, quand il rentrait ou quand il partait en voyage, se recueillir devant l'image de la Vierge. Et puis, c'est aussi une question de simplicité. Il préférait effectivement ne pas être dans une, peut-être plus proche du peuple romain, je ne sais pas.
C'était son côté peu faste, c'est ça?
Oui, puis on dit aussi que Saint Ignace, fondateur des Jésuites, a célébré, dit-on, sa première messe à Sainte-Marie-Majeure. Il faudrait le vérifier.
C'est exactement ce que je confirme. Au centre de Rome, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette basilique, différente donc de la basilique de Saint-Pierre. Oui. Voilà. Près de la gare, de Alberto Toscano, donc qui est l'italien.
Oui, en fait, les papes au cours du XXe siècle sont tous inhumés dans la crypte de Saint-Pierre, mais en fait, on trouve des papes dans toutes les basiliques majeures autour de Rome. En revanche, ils rompent avec l'habitude qui était des derniers papes, qui était d'être à Saint-Pierre de Rome. Mais sinon, quand on fait le tour des basiliques majeures à Rome, on trouve des papes.
Oui, il y en a six, me semble-t-il, c'est ça qui sont...
Il y a six basiliques, oui, c'est ça.
Au sein de... Ça fait partie de son style, Christine Pedotti, au pape François, d'avoir choisi justement cette Marie majeure.
En tous les cas, ça fait partie de son style de se singulariser et de ne pas hésiter à le faire. Le pape François, c'était un homme avec une grande liberté. Il le montre dès le premier jour.
Il essaye de surprendre tout le temps, en fait.
Dès le moment où il est au balcon, il ne se plie pas au rite. On ne lui met pas, par exemple, la mosette rouge, qui est un truc avec l'hermine autour, etc. Ça commence comme ça. Ça se termine, si j'ose dire, à Sainte-Marie-Majeure, parce que, je veux dire, c'est un homme qui pensait qu'on pouvait aussi changer les choses et plier les rites à une autre forme dès l'instant où ils étaient significatifs. Je ne dis pas qu'il était contre les rites, mais qu'au fond, il voulait qu'ils aient une signification.
Et cette image, justement, est-ce qu'on pourrait la commenter pendant une seconde, justement, Christy Pedotti, où on voit justement avec sa chaise bleu-rouge, sa mitre blanche. C'est vraiment la première image, en fait, avec ses deux gardes suisses. Ça aussi, c'est traditionnel.
Oui, l'exposition du corps des papes est traditionnelle. Aussi loin que ma mémoire remonte, il y a des narrations de l'exposition des corps des papes. Enfin, au temps de la Renaissance, il y en a qu'on a jeté dans le Tibre.
Pas tout à fait la même chose. Mais donc là aussi, c'est très codifié, le rouge.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et ça, en fait, il n'a pas modifié ce genre de choses. Il a juste donné des consignes de grande simplicité à propos du cercueil, à propos du fait qu'il voulait être inhumé directement dans la terre. J'espère qu'on la trouve à Sainte-Marie-Majeure, la terre. Mais voilà, donc pas dans un caveau. Enfin voilà, il y a des vrais... voilà, il souhaite donc que son corps, d'une certaine façon, retourne à la poussière.
Père François Levé, donc on va creuser à la basilique de Sainte-Marie-Majeure pour pouvoir le mettre...
J'ai du mal à m'imaginer ça, mais enfin...
Vous avez du mal à l'imaginer tout de même.
Peut-être.
Pour respecter ses dernières volontés.
Il a demandé clairement ça.
Il a demandé tout à fait.
Je suppose qu'il y a de la terre quelque part.
Il y aura de la terre,
on va la transporter pour
Ça vous paraît pas évident.
Oui, sa simplicité est quand même la marque une des marques principales de son pontificat. Alors, ça, qui va créer pour le moins un précédent, parce que on imagine mal le successeur reprendre des fastes que déjà les papes précédents avaient abandonné. Paul VI par rapport au faste précédent, quand on se rappelle, enfin, pas souvenir précis, personnel, mais
ça sera difficile.
Les grandes célébrations de Pie XII, déjà, une simplicité, on voit qu'il y a une évolution quand même, de simplification.
Le prochain devra conserver cette forme de simplicité, en tout cas, ne pas revenir à avant le pape François.
C'est votre... Voilà, Benoît XVI était déjà un petit peu plus cérémoniel que Jean-Paul II, mais en tout cas, François marque une étape importante.
Mais il faut souligner que cette simplicité a semé le trouble à Rome aussi. Je me souviens très très bien qu'au moment de l'élection, j'ai entendu de nombreux Romains qui, face à cette simplicité affichée, nous expliquaient « non fa il papa », il ne fait pas le pape. C'est-à-dire qu'il ne joue pas le rôle de souverain pontife, et à Rome, la mémoire est encore extrêmement précise d'un pape qui dirigeait les états pontificaux, qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans la mémoire romaine, représentait à peu près un tiers de la surface de l'Italie. Voilà une mémoire qui est très importante encore à Rome.
Alberto Toscano, alors, simplicité, sauf que lors de ses funérailles, il va y avoir vraiment un ensemble de dirigeants étrangers, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, qui a d'ailleurs été le premier à avoir dit qu'il se rendait aux funérailles. Quand on connaît les relations qu'il avait avec le pape François, qui a fustigé toute sa politique sur les migrants, on veut s'afficher tout
de
même.
Ça va être un grand événement politique, en plus que moral, pour sa signification planétaire, et dont le monde entier rend hommage à une personnalité qui, c'est vrai, au début, a créé quelques perplexités pour sa façon de s'exprimer, de faire, de dire, mais qui, à la fin, a gagné son pari. Et c'est aussi le pari d'un grand expert de communication.
Oui.
Parce qu'il est extraordinaire comme cet homme était capable de vivre et de gérer la com.
Et le prochain devra aussi, probablement, être dans cette veine, incommunicant.
Le prochain, je pense, ne pourra pas essayer de le copier. Parce que le style François est un style unique. C'était François, de la tête aux pieds. Le prochain devra se montrer, c'est ma persuasion, proche du peuple, comme François l'a été, mais d'une autre façon. Et le prochain devra poursuivre ses réformes et devra être, je pense, un homme de stabilité en plus qu'un homme de communication.
Le conclave, en tout cas, il aura lieu entre le 5 et le 10 mai. 135 cardinaux qui vont voter. Ils ont moins de 80 ans, ces 135 cardinaux. Ils vont se réunir dans la chapelle Sixtine, sans aucun contact avec l'extérieur. On fait un point d'image avec Gaspard de Florival.
Qui deviendra le 260e pape de l'Église catholique? C'est aux quelques 137 cardinaux électeurs réunis dans quelques jours dans la chapelle Sixtine qu'appartient la décision. Alors, qui sont les candidats crédibles? Plusieurs noms émergent déjà. D'abord Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Il a 70 ans, considéré comme un homme de compromis, expérimenté en diplomatie mais parfois jugé trop effacé. Autre italien, l'archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi, est lui aussi souvent cité. Ce progressiste âgé de 69 ans est connu pour son engagement social envers les migrants et les personnes homosexuelles. Parmi les favoris, un Français, Jean-Marc Aveline. C'est l'archevêque de Marseille et le président de la Conférence des évêques de France depuis quelques semaines. Il avait accueilli le pape François à Marseille, justement, à l'été 2023. Particulièrement populaire auprès de l'aile progressiste de l'Église, il est sensible aux questions migratoires et interreligieuses. Quoi qu'il en soit, le futur pape devra rassembler l'Église, selon cette historienne.
Justement, une personne qui soit susceptible de faire l'unité et aussi, je dirais, une personne qui serait susceptible de prendre en charge un certain nombre de dossiers lourds. On voit bien que les derniers pontificats ont quand même été très marqués par les crises des violences sexuelles successives. C'est un des enjeux majeurs, malgré tout, du pontificat. D'autant plus qu'on voit que cette question des violences sexuelles, elle traverse le monde entier.
François était argentin. Le futur pape pourrait aussi venir de plus loin dans le monde. Parmi les autres successeurs potentiels, l'archevêque suédois Anders Arborelius, le cardinal philippin Luis Antonio Tagel ou encore l'ancien archevêque de Conakry en Guinée, le conservateur Robert Sarah. Quelle que soit la personne choisie, le choix du futur pape sera un signal fort dans un contexte de tensions idéologiques croissantes au sein de l'Église.
Pauline, on vous retrouve, la place Saint-Pierre de Rome. L'aéroport de Rome est un lieu important aujourd'hui puisqu'il voit atterrir un certain nombre de cardinaux qui ne sont pas encore arrivés.
Oui, en effet, il y a déjà une soixantaine de cardinaux qui sont arrivés ici à Rome sur les 250 cardinaux attendus. Sur ces 252 cardinaux attendus, eh bien 135 sont des cardinaux électeurs. Ce qui est important de souligner, c'est que les cardinaux qui ne votent pas lors du conclave participent aux congrégations générales. Ces congrégations sont extrêmement importantes car c'est là que les cardinaux vont définir ce dont a besoin l'Église, le profil du successeur du pape François. C'est là aussi que les alliances commencent à émerger. Ils vont aussi décider de la date du conclave. Et c'est lors de ce conclave que cette fois, les 135 cardinaux électeurs vont donc élire le successeur du pape François. Alors, il est vrai que pour le moment, aucune information n'a filtré sur la date de ce conclave. Ce que l'on sait, c'est que le conclave, il doit débuter entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, ce qui voudrait dire que ce conclave pourrait débuter entre le 5 et le 10 mai.
Entre le 5 et le 10 mai. Alors on va tenir un peu les paris, hein. Je sais que c'est compliqué, Christine Pedotti, mais par exemple, le pape pourrait être français cette fois. C'est une possibilité avec l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, il fait partie des favoris.
Vraiment, bien malin. Qui va s'exposer à faire un pronostic.
Vous savez qu'il y a des sites de paris en ligne aujourd'hui.
On a même demandé aux intelligences artificielles.
Alors, ils comptent. Alors, vous avez le résultat.
Je crois qu'il y en a une qui dit que ça sera Zuppi, l'Italien.
Ah, Zuppi. Donc Zuppi, sur l'intelligence artificielle.
Suis de cette thèse.
Alors, l'intelligence naturelle suit l'intelligence artificielle, formidable.
Donc, pour Alberto Toscano, ça sera un Italien. Zuppi. Donc Zuppi, c'est l'archevêque de Bologne. Hein.
Le critère est vraiment...
C'est un progressiste, il faut le dire, Zuppi.
Quelqu'un, un progressiste, mais qui sait gérer. Zuppi, je dis une chose qu'il a fait et que tout le monde ne connaît pas. Il a été chargé par le pape François, et les présents le savent, mais le public peut-être ne le sait pas, d'aller négocier avec les Russes le fait que certains enfants qui ont été enlevés en Ukraine puissent être, entre guillemets, rachetés.
Donc c'est un cardinal diplomate.
Il a conduit une négociation très délicate.
Oui, c'est un cardinal diplomate.
Gagné, et il a gagné.
D'où ce positionnement peut-être...
Bon, il est un progressiste, mais homme de stabilité. Et créateur de cette communauté de Sant'Egidio qui est connu dans le monde. Donc, c'est pas parce qu'il est italien, c'est parce qu'il est un homme qui prend l'essence de l'esprit réformateur et sait, je pense, la conjuguer avec, dans un contexte d'unité et de stabilité.
Frédéric Mounier, puis contexte géopolitique, intéressant, vous parlez des enfants enlevés. Est-ce que le contexte géopolitique actuel va aussi déterminer ce choix?
Naturellement. Sur les faits, je suis d'accord avec ce que dit Alberto Toscano, mais le simple fait que le cardinal Zuppi soit l'un des cofondateurs de la communauté Sant'Egidio ne plaide pas en sa faveur. La communauté Sant'Egidio est une organisation qui est absolument remarquable d'aide aux plus pauvres et de diplomatie, mais c'est aussi, en quelque sorte, la cinquième colonne du Vatican. C'est l'action, c'est l'outil de diplomatie parallèle du Vatican, et je pense qu'il est hors de question aujourd'hui de voir la communauté Sant'Egidio prendre le pouvoir. En réalité, au Vatican, il y a trop de gens qui lui sont opposés aujourd'hui.
Donc il est out, vous dites.
Me semble-t-il.
Donc quelle est votre idée?
Non, moi, je n'ai pas d'idée. Je constate que le centre de gravité...
Votre favori.
Le centre de gravité de l'Église catholique se déplace vers le sud. Et pour la première fois, nous avons un conclave avec un grand nombre de pays représentés. Il y a 71 pays représentés. Et le sud est majoritaire dans ce conclave. C'était la volonté du pape. Alors,
l'archevêque de Manille, par exemple.
Le cardinal Taglé, mais le cardinal Taglé, on dit que c'est un grand émotif et que, comme vous savez, pour occuper ces fonctions-là, à la tête de 1 milliard 300 millions de baptisés, de 500 000 prêtres, de 800 000 religieux et religieuses, il faut mieux avoir une santé psychologique solide.
L'archevêque de Kinshasa.
l'archevêque de Kinshasa, pourquoi pas?
On parle du
en
sud.
Particulier parce qu'il fait partie du groupe, il faisait partie du groupe du C9, c'est-à-dire des conseillers proches du pape. Le problème, c'est qu'il s'est opposé frontalement au pape François suite à la publication de son texte sur l'accueil des personnes de même sexe et donc sur les unions de personnes de même sexe. Il a porté la révolte africaine face à François et il a clairement expliqué à François publiquement, nous n'appliquerons pas ta réforme. Donc je le vois mal aujourd'hui porté sur le siège de Pierre.
Hervé, il faudra qu'il soit consensuel. De toute façon, faut dire que c'est 2/3 des votes, hein, donc qu'il doit recevoir ce futur pape. Donc c'est tout de même, ça doit être conséquent. Ça prend souvent plusieurs jours.
Il faudra effectivement qu'il soit consensuel. Il y a la question des gros dossiers qu'on a abordés. Je crois que le cardinal...
Les dossiers géopolitiques comptent.
Oui, bien sûr. Les questions des abus, je crois que le cardinal Zuppi, là-dessus, sur la question des abus, n'a pas été extrêmement engagé. Hein, d'après ce
comme
que,
la plupart des cardinaux
italiens. Sur les abus sexuels de l'Église, qui est l'autre dossier que va récupérer dossier, le nouveau pape.
Les Italiens n'ont pas bougé sur ce dossier.
Les Italiens, là-dessus,
ils
sont
ont
pas
fait de la parole ensuite. Hein.
Oui. Sur la conférence des évêques italiennes a dit l'équivalent d'une commission sauvée, comme il y a eu en France, la CIAZ, chez nous, jamais.
On n'en veut pas.
Et c'est donc la position ça joue aussi les épiscopats africains.
Ça jouerait contre
jamais,
eux, ça.
Jamais, c'est un terme un peu draconien. Pas aujourd'hui.
Ils sont pas très favorables.
Voilà.
Je ne sais plus son nom exactement, mais du Brésil, un cardinal brésilien aussi,
oui.
Qui me semble peut-être intéressant. Mmh. Alors, est-ce qu'il se sera de nouveau latino-américain, c'est pas certain. L'archevêque de Stockholm aussi est une figure intéressante. Le Carme, qui a été mentionné tout à l'heure, encore une fois, ma mémoire me fait défaut, sur l'instant.
Un protestant converti.
Un protestant converti, c'est un profil qui n'est pas sans intérêt. Voilà.
Donc, et l'archevêque de Marseille, alors, Jean-Marc Evelyne?
C'est une possibilité aussi. Mais vraiment, enfin, là-dessus, je crois que, on connaît l'adage bien connu, ceux qui entrent pape au conclave en sorte cardinal, mais,
On dit beaucoup qu'il faudrait que Jean-Marc Avigne, archevêque de Marseille, apprenne l'italien. Parce qu'il ne parle pas l'italien couramment, et donc à Rome,
c'est un vrai défaut. Il faut parler italien couramment.
Oui, c'est la langue de travail du Vatican. Autrefois, au Vatican, on parlait couramment français. On publiait couramment en français. Le français s'est retiré. On parle de moins en moins français, et on parle italien au Vatican.
Espagnol,
exactement.
Un mot peut-être sur... Allez-y, oui.
Oui, il y a une chose qu'on peut dire...
Vous n'avez toujours pas parié. Christine Pedotti.
Il y a une chose sur laquelle on peut parier, c'est que je pense que ce conclave ne peut pas élire un conservateur. Parce que certes, il faut une majorité des 2/3 pour élire quelqu'un, mais il y a des minorités de blocage... 1/3 qui empêche une élection.
Et vous pensez que là, elles sont...
Il y a une minorité de cardinaux ouverts qui ne laisseront pas passer un conservateur.
Parce que 80% de ces cardinaux ont été nommés par le pape François.
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont à 80% dans l'ouverture, mais ils sont suffisamment pour bloquer la possibilité que quelqu'un... C'est pour ça que souvent on parle d'idée qu'il y aurait un retour de balancier. Je pense qu'il faudra un arbitrage et donc un homme du centre et du consensus.
Donc par exemple, le cardinal Robert Sarra, le Guinéen, lui, serait exclu, trop conservateur.
À mon sens, zéro chance. Mais il va falloir faire des arbitrages. Je rappelle que l'une des premières missions du pape, c'est vraiment de faire l'unité de l'Église. C'est une des obsessions des papes, de maintenir l'unité. Donc en fait, les cardinaux, avant de transformer l'un des hommes en rouge en homme en blanc, ils vont vérifier qu'il est capable de faire l'unité.
Oui, mais Alberto Toscano, il y a des divisions au sein de l'Église. On l'a bien vu avec justement le pape François. Il l'a mis en lumière, ces divisions. Donc là, il faut trouver un consensus. Ça n'a pas l'air très facile tout de même.
Le pape François, je crois, a géré et trouvé... l'unité de l'Église, créer cette sainte unité aussi par son caractère, par sa communication. Là, ça sera difficile, et je suis tout à fait d'accord, il y a une minorité de blocage, il faut trouver quelqu'un qui puisse faire, pas l'unanimité, mais trouver une large majorité. Et de ce point de vue-là, en Italie au moins, on parle de 2 autres cardinaux, qui sont plus des diplomates, plus de politiques, le cardinal Pizzaballe, qui est à Jérusalem.
Patriarche latin de Jérusalem.
De Jérusalem.
Oui. C'est un franciscain.
franciscain. Oui. Et là, un jésuite a choisi le nom Franciscus pour un franciscain pour trouver un nom plus jésuite.
Et un autre diplomate d'ailleurs.
Et l'autre est Paroline. Hein. L'autre Paroline, le secrétaire d'État, qui a une habileté, une capacité que tout le monde lui reconnaît de contact.
Parce que lui, il est secrétaire d'État du Vatican, hein, pour le remplacer, Pietro Paroline. Et donc, ça serait aussi un diplomate qui serait peut-être capable de gérer un peu ce conflit.
Son caractère, c'est beaucoup plus froid, je crois, dans les deux cas, que le pape François, plus pragmatique, aussi plus froid que Zuppi, mais c'est quand même des noms d'Italiens qui circulent.
Père Hervé, vous voyez, vous aussi, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Christine Pedotti, qu'il n'y aura pas une sorte de retour de balancier, parce que souvent, on pourrait se dire, il était très ouvert, très proche du peuple, le pape François, donc le prochain sera beaucoup plus conservateur, peut-être un théologien.
Non, tout à fait d'accord avec ce que dit Christine. Il y a
on
des manœuvres aussi.
Côté pastoral encore.
Je pense, oui. Il y a des manœuvres aussi, d'après un nom qu'on n'a pas encore cité, c'est l'archevêque de Budapest, le cardinal R2, qui est aussi une figure plus jeune que Sarah, et qui est le candidat du camp conservateur, mais qui n'aura jamais la majorité, à mon avis.
Non, je crois. Il faut raconter comment ils font campagne au sein de ce conclave, parce que chacun fait campagne pour essayer de récupérer le vote des autres.
Ils se constituent, oui, il y a des gens qui se connaissent. Alors, ce qu'il y a, la particularité de ce groupe de cardinaux, c'est que, en fait, ils se connaissent mal, à part quelques-uns. Il n'y a plus les grandes figures des grandes capitales qui pouvaient se rencontrer de temps en temps. Là, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Donc, la première phase, ce sera de faire connaissance. Et on verra à ce moment-là comment les groupes, quels sont les thèmes qui émergent dans les débats.
On parle beaucoup de Raymond Burke, hein, le cardinal de Saint-Louis, cet Américain. Peut-être vous pouvez en dire un mot, Christine Pedotti. Alors lui, il a plus de 80 ans, me semble-t-il. Oui. Donc, il ne vote pas. Mais il faisait partie un peu des candidats.
Il fait partie des ennemis de François, surtout.
Et c'était un ennemi du pape François.
Vraiment, un ennemi déclaré de François. Il a lutté ouvertement contre à peu près tout ce que François a souhaité faire, sur toutes ses ouvertures, sur...
Oui.
Voilà. Il a des soutiens aux États-Unis.
Il a quasiment traité le pape François d'hérétique.
Oui.
Quasiment.
Oui.
Donc il est allé très très loin.
Alors il a des soutiens aux États-Unis, mais ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas à faire une majorité, et ça ne suffit même pas à faire une minorité de blocage. Et puis en plus, il n'est pas au conclave, donc il a quand même quelques handicaps très lourds. Il ne faut pas non plus négliger ce qui va se passer, ce qui commence déjà à se passer, puisqu'ils sont déjà 60 à être arrivés, nous dit-on, pendant ces congrégations générales. Et puis aussi... les discussions qu'il y a dans les hôtels, dans les maisons religieuses, etc.
Qui ont déjà commencé ces discussions.
Oui, forcément, ils logent ensemble. Il paraît qu'il n'y a pas assez de chambres pour les loger.
Ah bon, donc compliqué. Ils vont partager, certains vont partager une chambre.
En fait, ils logeront dans le Vatican. En tout cas, ils logent effectivement dans différents lieux de Rome et ils se rencontrent au réfectoire, à la cafétéria.
C'est maintenant que ça se passe.
Et c'est là que les choses importantes se passent. Et c'est là, justement, au conclave de 2013, la figure de Bergoglio avait émergé parce que il avait une prise de parole que tout le monde avait remarqué. Bon, il était connu par certains, mais enfin, il avait une...
Il n'était pas très connu,
Il était connu déjà. Déjà, au précédent conclave, sa figure avait déjà...
Donc, a priori, ça sera un de ces noms-là. On va pas, Frédéric Monnier, on va pas se retrouver avec un pape totalement inconnu. Ça serait possible parce qu'on appelle le mystère du conclave. On pourrait avoir un pape dont personne n'a vraiment pensé.
On ne sait pas. En tout cas, j'attire votre attention sur un point, c'est que ce conclave est anormalement nombreux. Il y a 135 électeurs. A priori, le rituel prévoit deux tours le matin, deux tours le soir. Quand on sait que chaque vote prend plusieurs minutes, parce qu'il faut écrire, il faut traverser la chapelle Sixtine, il faut prononcer une prière, je pense que pour 135 personnes, ça va prendre du temps. Il faut s'attendre à un conclave assez long. Hormis le fait que les cristallisations ne se feront pas tout de suite, mais mécaniquement, tout cela va prendre du temps.
Donc quoi, une quinzaine de jours, s'il démarre entre le 5 et le 10 mai, il faut attendre la fin mai avant d'avoir un nouveau pape.
Il avait fallu 5 tours pour élire François, il faudra peut-être le double, voilà, mais ça prendra du temps.
Il avait fallu 8 tours pour élire Jean-Paul II.
8 tours pour Jean-Paul II.
8 tours pour Jean-Paul II, 4 tours pour Benoît XVI, 5 tours pour François. Moi, je pense et plutôt, tour, comme Frédéric, qu'on est plutôt sur 8 tours. Parce que je pense que les tours de chauffe, précisément parce qu'ils sont nombreux, normalement, on dit souvent que le premier tour donne les premiers noms, et puis qu'ensuite, les courants se reforment autour de ces premiers noms. Là, ça peut être un petit peu plus long, un peu plus étendu. S'il y avait 8 tours, ça ne serait pas étonnant et ça ne serait pas scandaleux. Oui. Il ne serait pas encore question de les mettre au pain et à l'eau comme on a fait il y a 800 ans.
Ah, on les avait mis au pain et à l'eau pour comme accélérer.
C'est comme ça qu'on a commencé à les enfermer à clé. Conclave, c'est cum clave, hein, enfermé à clé. C'est comme ça que ça commence.
C'est pour qu'enfin ils décident. Voilà. Là.
Donc au pain et à l'eau, si jamais ils ne décident pas suffisamment, suffisamment vite. Père Hervé, un mot justement sur celui qui pourrait succéder. Donc ça devrait être un communicant, ce que disait Alberto Toscano. D'ailleurs, c'est intéressant que vous disiez que le pape François a d'abord été connu pour ça. Capacité oratoire,
oui,
ça faisait partie du choix.
Oui, tout à fait. Oui. Bon, effectivement, capital.
Aujourd'hui, c'est devenu important.
Ah ben, bien sûr. Bien sûr. C'est fondamental de savoir s'exprimer. Alors, parfois, communication, faut pas non plus que ce soit une figure trop, trop brillante.
Trop enfin,
il faut plutôt une figure pastorale.
Oui, donc ça, on restera dans la veine de alors, effectivement, François.
Il y a un autre élément, je crois, dont il faudrait tenir compte, est l'âge. Parce que, dans la tradition, par exemple, en choisissant, Roncal, qui sera pape Jean XXIII, on avait cru à un pape de transition et ça a été un grand réformateur. En général, on dit que quand on choisit quelqu'un d'assez âgé, on ne veut pas que la réforme soit immédiate et brutale. Et c'est plutôt une tendance de transition. Donc, si on choisit quelqu'un de 69 ans comme Zuppi, et plutôt que quelqu'un de 75 ou 78, alors c'est déjà un choix sur les modèles futurs. Et plus la personne est âgée, plus on peut avoir la sensation d'un compromis pour ne pas trop bouger les lignes.
Alors c'est ça, Christine Pedotti, on peut dire qu'il y aura en fait un peu quoi, les réformateurs et les conservateurs, donc la question de la réforme de la curie qui a été entamée par le pape François, la réforme de l'Église, l'ouverture aux homosexuels,
Les abus.
Les abus, bien sûr, les scandales de l'Église, c'est vraiment le gros dossier, l'un des premiers gros dossiers à traiter.
C'est un dossier très coûteux en termes de communication, hein. C'est un dossier qui éteint la voie évangélique de l'Église.
Et là-dessus, il y a eu de vraies oppositions, même sur les quelques avancées.
Oui, d'autant qu'il y a un certain nombre de pays, beaucoup de pays qui n'ont pas fait le travail sur la question des abus. Donc en fait, les abus, ils n'ont pas fini de surgir, ne serait-ce qu'en Italie, en Espagne, c'est à peine fait, donc même en Europe, et plus encore, évidemment, quand on va vers le Sud, où là, le travail n'est pas fait du tout. Or, en fait, on n'a aucune raison de penser qu'il n'y ait pas des abus qui vont surgir là-dessus. Donc ça, c'est
c'est une question dont ils vont parler, dont ils parlent déjà, à savoir comment, où est-ce qu'ils n'en parlent pas. Est-ce que ça serait le tabou du conclave?
Oui. Dans quelle mesure l'ensemble des cardinaux est très sensible à cette question? Enfin, sensible, oui.
C'est ça, la question.
Tout le monde est sensible, mais dans quelle mesure ils y sont vraiment sensibles? Dans quelle mesure ce sera un critère important? Parce que je pense qu'un certain nombre de cardinaux ont quelques boulets, quelques casseroles. Non pas personnelles, mais en tout cas de mauvaise gestion. Oui. Bon, on sait que François n'était pas très clair, mais à l'époque, ça ne jouait pas forcément un rôle important. Aujourd'hui, effectivement, si émerge une figure dont on sait qu'il a mal géré dans son diocèse la question, au niveau de l'opinion d'église, ça risque de poser
problème. Ça jouerait contre lui.
C'est un risque probablement que les cardinaux ne prendront pas, c'est-à-dire qu'ils s'assureront autant qu'il est possible que celui qu'ils choisissent ne risque pas d'être rattrapé par un scandale de dissimulation. Hein. Donc ça, c'est une chose auquel
chose importante.
Oui, très attentif. Et je précise une chose, hein, c'est que ils font pas des longs discours dans les congrégations générales. Je crois que Bergoglio, il avait parlé 3 minutes.
Hein, c'est 3 minutes, il a convaincu les deux tiers des cardinaux.
Il a enflammé en 3 minutes. Hein,
la communication. Frédéric Mounier.
On parle de la communication, c'est absolument essentiel, mais au-delà de la communication, il y a la communion. L'Église universelle, aujourd'hui, est une institution extrêmement fragile, avec des tendances, des tentations centrifuges qui sont extraordinairement importantes. Et donc, il faudra absolument élire un homme qui soit capable de faire que tout le monde parle avec tout le monde, et que de San Francisco à Kinshasa jusqu'à Séoul, eh bien, le message évangélique puisse être conjugué de façon cohérente. Et ça, c'est un vrai défi. défi en ce moment.
D'autant plus qu'il y a une baisse de vocation des prêtres, hein, désertion même des lieux de culte. 500 000 personnes qui ont quitté l'église en Allemagne en 2022.
Oui, alors ça c'est vrai de l'hémisphère
nord.
Alors justement c'est intéressant. Et en France, les baptêmes d'adultes en hausse, mais baisse générale des baptêmes aussi. Donc les sociétés se sécularisent en tout cas dans le nord. Dans le sud, ça n'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas du tout dans le sud.
Voilà. Moi j'étais récemment dans une paroisse à l'extrême nord du Cameroun. Je peux vous dire que les vocations affluent, les baptêmes se comptent par centaines et les fidèles, les conversions se comptent par milliers.
Malgré les évangéliques, malgré toutes les autres églises.
C'est extrêmement important. C'est extrêmement important.
Père, un autre élément, enfin on a fait allusion, c'est important d'y revenir, c'est la question géopolitique, les rapports nord-sud. C'est dans quelle mesure, dans la mesure où le corps des cardinaux est quand même maintenant, enfin comme Frédéric l'a dit, basculé beaucoup au sud, comment les complications, les tensions nord-sud vont jouer dans cette question-là, qui est une situation relativement nouvelle. Enfin, l'émergence justement des puissances du sud et leur opposition à l'Occident au nord, ça va se sentir certainement.
Parce que dans le sud, ils sont plus conservateurs globalement que dans le nord.
Alors,
c'est ça qui est aussi intéressant.
Cet élément qui joue, oui, sur le plan des mœurs, ça joue. Mais je pense que la critique, la difficulté, les tensions par rapport à la culture du Nord, certainement vont jouer dans les débats.
Et puis, il y a une chose, c'est que le conclave, il a lieu au printemps 2025 et pas au printemps 2024. C'est-à-dire, il est dans un monde qui, géopolitiquement, il est dans un état de grand chaos, de grandes secousses sismiques. Enfin, là, on s'intéresse au pape et du coup, on écoute moins Trump, hein, enfin.
Trump qui était le premier à dire qu'il allait participer, voilà, d'ailleurs, aux obsèques
François. Il était très impatient d'y aller.
Et Zelensky qui a dit qu'il verrait Trump à cette occasion. Donc, il y a de la géopolitique déjà, là, lors des obsèques.
On est dans un monde très bouleversé. Le fait qu'on soit là maintenant et pas il y a un an, on n'aurait pas été dans la même configuration. Là, il y a quelque chose, il y a une secousse dans le monde, et forcément, les cardinaux, ils arrivent avec tout ce savoir, toute cette inquiétude. Ils portent l'inquiétude que nous portons sur le monde et sur les soubresauts que les équilibres mondiaux sont en train de connaître.
Mais justement, quel est l'impact des États-Unis? Parce que là, il y a effectivement des catholiques. J.D. Vance, c'est la dernière personnalité politique à avoir vu le pape François, tout de même. Et ils en jouent aussi de ces... Mais ce qui est un catholicisme un peu différent, probablement,
différent.
De l'Europe,
vous savez,
plus conservateur.
Il y a plusieurs versions du catholicisme, et notamment aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis des catholiques qui sont climato-sceptiques, qui sont antidémocratiques et qui sont anti-migrants, et qui pensent qu'il faut renvoyer tous les migrants chez eux. Ce sont ces gens-là qui sont autour de Trump, autour de J.D. Vance. Ce sont ces gens qui
sont... Ils sont représentés par des cardinaux, là, au conclave. Il y aura effectivement le fameux Raymond Burr.
Certains, mais il y a aussi... Le pape François a pris soin de nommer, par exemple, sur le siège de Washington, un cardinal qui est véritablement anti-Trump, et il y a eu une sorte de levée de bouclier de la conférence épiscopale américaine face aux mesures de Trump contre les migrants, contre l'aide au développement et tout ce qui fait que Trump a voulu détricoter la démocratie. Une partie des évêques américains sont montés au créneau contre cela. Le problème, c'est aussi une question de finances, c'est-à-dire que l'argent américain est l'un des grands bailleurs de fonds du Vatican. Et donc cette question-là aussi est en arrière-plan d'un certain nombre de débats.
Donc effectivement, le pouvoir de l'argent joue.
Je peux dire
là, on est dans la politique. Mais allez-y, je vous donne la parole juste.
Oui, mais l'autre grand bailleur de fonds, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, elle est très progressiste.
Ah, donc il y aura quand même...
Ils sont à équivalent. Hein. Grosso modo, le budget du Vatican est alimenté à 40% par les États-Unis, 40% par l'Allemagne.
Difficile, pourquoi? Pourquoi les Allemands sont-ils...
Progressistes?
Non, surtout qu'ils investissent autant auprès du Vatican.
Parce qu'ils payent l'impôt. L'argent de l'Église est ramassé par l'impôt général.
Le Kirchensteuer. C'est l'impôt d'Église.
L'Église.
Vous êtes obligé de déclarer votre confession.
Voilà. Et donc, en fait, les Églises allemandes, aussi bien l'Église protestante que l'Église catholique, sont riches. Et d'ailleurs, elles ont des contraintes, hein, puisque elles ont un grand rôle éducatif, un grand rôle caritatif dans les institutions hospitalières, etc. Donc, elles participent à la vie, à l'organisation de la vie allemande, de façon. Mais elles ont aussi des liquidités, des richesses.
En Italie. Vont...
C'est intéressant, mais il n'y a pas de cardinal allemand, là, dans les noms qui ressortent.
En Italie et en Espagne, on a la faculté, on n'est pas obligé, mais la faculté d'offrir. De donner le 8 pour 1000, 0,8% à une religion
au moment de la déclaration de revenus, mais si on ne choisit pas, de toute façon, la cagnotte est répartie entre toutes les religions objet d'un choix. Donc, là aussi, il y a pas mal d'argent qui va à l'Église catholique. Je voulais dire quand même un mot sur l'aspect plus politique. Je crois que le défi politique est le défi de la paix. Il ne faut pas faire le tour 3000 fois. Et aujourd'hui, l'héritage du pape François est un discours de bonne volonté qui a été injustement considéré comme un discours parfois même pro-russe pour certaines prises de position du pape François. En réalité, c'était un discours moral de paix. Et je rappelle le comportement du pape Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale. Il a été accusé d'être du côté de l'ennemi, c'est-à-dire des empires centraux. Non, c'était un message moral de paix. Et le discours du message moral de paix est un discours profondément politique.
Donc la relation avec la Russie, la relation avec la Chine aussi compte.
Oui, la relation avec la Chine. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça sera beaucoup discuté dans leurs assemblées, mais c'est vrai que ça a marqué le pontificat de François, ce désir de rapprochement avec le gouvernement chinois pour, de façon à assurer l'avenir de l'Église chinoise. Enfin, c'est une question qui s'était posée en URSS dans les années 30. C'est-à-dire comment assurer l'avenir dans un régime effectivement hostile à l'Église, mais on peut pas rester indéfiniment dans les catacombes. C'est un débat compliqué, je sais bien, mais en tout cas là-dessus, je crois qu'il y a vraiment ce souci aussi de réconcilier les deux parties d'Église en Chine.
Donc en fait, ça va être quoi, un pape de synthèse, c'est ça qu'il faudrait globalement.
Oui, ça s'appelle la communion.
La communion.
Je rappelle quand même que normalement, il y a un personnage, si j'ose dire, qui agit au conclave. En tous les cas, c'est ce que croient les croyants, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui fait un peu de boulot, quoi.
Enfin, voilà. Donc le mystère du conclave, non, le Saint-Esprit.
En régime laïque, on peut dire que c'est, un effet de groupe. Hein, il y a un équilibre dans le groupe, et on peut penser dans la foi que c'est le Saint-Esprit qui va finalement guider le vote des cardinaux.
Pauline Godard, vous aurez le mot de la fin. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Un petit calendrier, là, pour la fin.
Oui, alors, à partir de demain et pendant 3 jours, les fidèles et les touristes également vont pouvoir se recueillir sur la dépouille du pape François et lui rendre un dernier hommage. Ça va durer donc 3 jours. Mercredi de 11h à minuit, jeudi de 7h à minuit et vendredi de 7h à 19h, puisque je le rappelle, la dépouille du pape François qui se trouve actuellement dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe va être transférée demain matin à 9h dans la basilique Saint-Pierre. C'est extrêmement important pour de nombreux fidèles d'avoir ce moment qu'ils vont pouvoir passer avec le pape François, se recueillir devant lui, sur son cercueil, prier pour lui. On a discuté avec de nombreux touristes aujourd'hui qui nous ont dit être extrêmement tristes, bien évidemment, d'avoir appris la mort du pape François. Certains ne s'attendaient pas, bien sûr, à se trouver à Rome à ce moment-là. On a discuté également aussi avec des non catholiques et beaucoup se disent également tristes de cette annonce, de cette mort, et notamment, comme nous l'a expliqué Monseigneur Valdrini, que nous avons interrogé tout à l'heure, pour les Romains, la figure du pape était extrêmement importante. Il y a beaucoup d'émotions ici, mais aussi beaucoup de sérénité. Les Romains qui pleurent aujourd'hui la mort du pape François.
Voilà, la dépouille du pape François, donc il sera présenté demain. Merci Pauline Godard, avec ce merveilleux coucher du soleil sur la basilique Saint-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alberto Toscano, Père Evé. Merci de votre présence, Christine Pedotti et Frédéric Mounier. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux également en podcast, et je vous dis à demain.
Silence tombe sur le ciel du Vatican. Les cierges vacillent, pleurent les anges blancs. Une voix de paix partit soudain. Le cœur du berger ne bat plus de main. Il marchait droit, guidé par la foi. Dans nos ténèbres, il ouvrait la voie. Mais maintenant, les cloches résonnent. Un monde en noir, les larmes résonnent. On a vu l'homme, pas une statue, il saignait pour nous, dans l'inconnu. Il priait fort, les bras ouverts. Aujourd'hui c'est Dieu qui le dessert. Pape François, doucement, Pape François, plus fort, Pape François, avec douleur, ton nom s'élève dans nos prières. Pape François, grandissant, Pape François, donne un cri, Pape François, inoubliable, ton âme s'envole, notre foi reste fière. Il a lavé les pieds des oubliés, il a aimé sans jamais juger. Face aux conflits, il levait la voix, pour chaque vie qu'on laisse sans choix. On ne l'a pas sacré par l'or, mais par les larmes, les cris du sort. Ses yeux voyaient nos imperfections, mais jamais ne trahissait sa mission. Il a aimé entier, de mots de paix et de vérité. Aujourd'hui le vide est infini, mais dans nos cœurs il vit ici. Pape François en écho, Pape François une prière, Pape François voit la paix, ton nom résonne dans la chapelle. Pape François, traverse l'existence. Il n'a jamais cherché la couronne, mais a porté la peine des hommes. Aujourd'hui la terre est en chagrin, un prophète pur devenu divin. Pape François, dans le respect, Pape François, sans tes pleurs, Pape François, ton nom, le souffle que vit dans chaque nom. Pape François, éternel, Pape François, dernier soupir, Pape François, dans la mort, dans la vie, tu nous sauves.